Ah, j'avais très, très hâte de parler à mon prochain invité, comme c'est le cas avec chaque invité, mais c'est un sujet qui me touche, qui me tient à cœur. Je pense qu'on est, on peut-tu dire ça, qu'on est tous un petit peu préoccupés par un paquet d'actes? Je ne veux pas mettre le doigt sur une chose plus qu'une autre, mais y a-t-il plus d'actes violents? C'est sûr que l'événement sordide, inexplicable, innommable, survenu en France vendredi en état, mais c'est un sujet que je voulais aborder avant vendredi, un acte de terrorisme qui donne froid dans le dos, mais aussi il y a des actes moins graves qui nous laissent pantois et qui nous amènent à nous poser la question, coudon, y a-t-il plus d'incidents avec violence, plus d'incidents avec armes à feu? On a pas très loin de chez nous, au sud de la frontière, un président qui encourage des chants de militants enfermés là, c'est pas pour Hillary Clinton, là, pour la gouverneure du Michigan, là, actuellement, là. Y a des gens qui se promènent. Je parlais avec un Québécois qui réside à Vegas, qui me disait, il y a quelques mois, dans la première vague, qu'il y avait eu comme peur ou qu'il s'était inquiété de voir des gens armés, là, avec des armes que nous autres, on peut pas s'imaginer. Ça fait pas partie de nos mœurs, là, de voir quelqu'un avec un fusil d'assaut dans les mains comme ça, là, à côté d'un pick-up, là, à Réunion, là, dans le cours de l'hôtel de ville, là, sur, il a vu ça à Dawson City. C'est quelque chose qu'on peut voir aux États-Unis. Et on se demande comment le président va gérer la défaite, si défaite il y a ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que le climat actuel est plus propice à des actes de violence, notamment? Eh bien, mon prochain invité est justement co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent. Et il a beaucoup de titres, et il est notamment également comme professeur à l'Université Sherbrooke, directeur de l'axe sécurité de l'Observatoire sur les politiques publiques. Et c'est avec plaisir que nous l'accueillons, M. David Morin. M. Morin, bonsoir.
Bonsoir, M. Langlois.
Alors, écoutez, vous avez saisi un petit peu l'esprit dans lequel je voulais amorcer cette discussion-là. Constatez-vous, au-delà de l'acte incroyable commis qui dépasse l'entendement commis vendredi, puis sans l'évincer non plus, constatez-vous qu'il y en a davantage actuellement parce qu'il y avait eu une espèce d'accalmie du terrorisme extérieur? On a davantage de craintes en ce qui concerne le terrorisme intérieur, par exemple, aux États-Unis en ce moment. Est-ce que vous constatez là une recrudescence?
Ouais, ben, effectivement, vous le dites bien. On avait un peu, si vous voulez, on s'était un peu endormi. Bon, pour ce qui est du terrorisme djihadiste, notamment en Europe et en Amérique du Nord, pour la simple et bonne raison que les services de sécurité et de renseignement s'étaient quand même adaptés à la menace. En France, il y avait eu près d'une soixantaine d'attentats ou de projets d'attentats qui avaient été déjoués. Donc, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait une certaine accalmie. Mais bon, même si à l'étranger, des organisations terroristes restent ou avaient connu des revers importants, elles restent dangereuses. Alors maintenant, la deuxième partie de votre question, le terrorisme intérieur. Alors, si on prend l'Amérique du Nord, c'est sûr qu'actuellement, je vous dirais que on est dans un contexte un peu insurrectionnel. Vous parliez des États-Unis, ça me semble évident. Tout le monde retient son souffle à quelques semaines de l'élection aux États-Unis. Et même ici, on voit effectivement des actes violents. Je vous dirais que le contexte de la pandémie est extrêmement anxiogène. Il y a beaucoup de gens qui vivent de la détresse psychologique, qui craignent pour la santé de leurs finances, de leur famille, etc. On a malheureusement des gens qui ont profité de ça pour essayer finalement de diffuser leurs idéologies, qu'elles soient complotistes, qu'elles soient haineuses par exemple, et qui donc finalement ont un peu soufflé sur le chaudron. La conjonction, si vous voulez, d'un contexte anxiogène comme ça et de la détresse psychologique me fait dire que oui, effectivement, on est dans un contexte où les actes de violence risquent malheureusement de s'accroître avant de se réduire.
L'une des questions que je vous posais par courriel avant qu'on puisse échanger ce soir, je me demandais jusqu'à quel point le climat social d'un pays aussi puissant et influent que les États-Unis peut déteindre chez un proche voisin comme nous, le Canada. Puis je veux pas faire des liens trop faciles avec le fait que c'est pas parce que ça joue du gun, ça arrive sud ou à Laval que c'est de la faute de la politique américaine. Puis là, il faut inclure, on peut pas tourner le dos à la pandémie puis effectivement l'aspect anxiogène de ce que nous vivons là. On constate avec grand étonnement, exemple, que le président américain a des partisans ici au Canada et au Québec. Et donc, dans la foulée, jusqu'à quel point ceci, ajouté ou en parallèle avec la pandémie, nous donne on nous permet de constater une ambiance, un état d'esprit chez certains citoyens qu'on n'avait jamais recensé auparavant?
Alors, pour ce qui est de l'influence, par exemple, américaine sur la montée de l'extrémisme violent au Québec et au Canada, je pourrais vous donner trois exemples. Le premier exemple, c'est dans les dernières années, la montée de l'extrême droite. qui s'est très inspiré de l'alt-right américaine ici, qui a vraiment, si vous voulez, connu des jours assez fastes, qui a donc a réussi à accroître un peu de ses membres. Donc ça, c'est un premier exemple, et on voit vraiment des réseaux de plus en plus entre l'extrême droite canadienne et l'extrême droite américaine, bon, et aussi européenne, mais c'est pas le sujet. Le deuxième élément, c'est tout ce qui est les milices armées anti-gouvernementales. Alors, comme vous disiez, c'est sûr qu'ici, la question des armes à feu est un peu différente. L'accès aux armes à feu est beaucoup plus complexe. Je vous dirais aussi que le contexte social est moins propice quand même. Oui. Ici, il y a moins de gens qui tiennent absolument à ça. Et ce sont quand même dans la grande majorité des cas, surtout des chasseurs, qui ne sont pas du tout formés comme des milices. Donc ça,
vous avez raison.
On voit une influence, mais c'est marginal. Et le dernier élément, c'est les théories conspirationnistes. Alors on a beaucoup parlé dans les dernières semaines du mouvement QAnon, qui est un mouvement politico-religieux. Et là, on voit vraiment qu'il y a eu quelques leaders d'influence qui ont réussi à importer cette idéologie-là au Canada et au Québec. Et c'est avec ça, en ce moment, qu'on est un peu pris. Et on a vu donc des mouvements beaucoup plus importants à ce niveau-là. Écoutez, pas plus tard qu'aujourd'hui, le blogueur de gauche Xavier Camus portait plainte pour menace de mort. Il identifiait des gens de QAnon. On a vu à Ottawa le réserviste des forces armées canadiennes qui donc est rentré dans les jardins de Rideau Hall et qui voulait en découdre avec le premier ministre Trudeau. On a vu des menaces de mort très concrètes. Toute la question des arrestations citoyennes. Donc cette espèce de mouvement anti-gouvernemental, anti-autorité, est quand même en train de gagner du terrain, je vous dirais, et de se radicaliser un peu ici au Québec.
Vous êtes co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent. On a vu l'incident, pas l'incident, c'est pas le bon mot, mais le drame, la tragédie survenue vendredi en France. Mais est-ce que on parlait du terrorisme? C'est vrai qu'on, je ne sais pas si on s'est endormi ou on a mieux contrôlé les menaces ou on les a mieux désamorcées au Canada comme aux États-Unis par rapport au terrorisme islamique, par exemple. Mais est-ce que donc l'Europe est actuellement plus vulnérable à ces actes-là que ne l'est l'Amérique?
Ben, l'Europe est plus vulnérable, notamment pour sa position géographique, qui fait qu'un certain nombre d'individus peuvent quand même se rendre là sans passer par la case aéroport. Donc c'est sûr que ça crée quand même déjà une contrainte supplémentaire. Mais encore une fois, en France, alors et c'est vrai que l'attentat de vendredi, c'était un réfugié, mais c'est pas du tout la majorité des cas. Les cas, c'est vraiment des Français, donc c'est du terrorisme endogène, de jeunes qui sont nés en France, et c'est un peu ça, si vous voulez, le défi face auquel on doit faire face. Et souvent, malheureusement, les services de renseignement, etc., c'est vrai, ont souvent un peu, si vous voulez, sous-estimé ce qui vient de chez nous. C'est beaucoup plus facile d'avoir peur de ce qui nous semble être étranger et d'avoir l'impression que notre voisin, finalement, ne peut pas passer à l'acte violent. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a très longtemps, si vous voulez, sous-estimé l'extrême droite, ici au Québec et au Canada. Donc, on se retrouve un peu, si vous voulez, dans une situation
C'était complexe. Là, mais ça dormait. Ils étaient en dormance, en quelque sorte?
Oui, bah en fait, ils étaient en dormance, c'est-à-dire que c'est des processus. Vous avez du mécontentement, vous avez un manque de confiance dans les institutions, et vous avez à un moment donné, effectivement, des agents de radicalisation. Alors, on n'a pas parlé d'Internet, mais dans le contexte de des dernières années, évidemment, Internet a été un outil important pour les recruteurs afin de radicaliser des gens, de les endoctriner et même parfois de les faire venir dans les organisations, rejoindre des organisations à l'étranger. On a vécu ça ici aussi et dans le contexte de la pandémie, d'ailleurs, je vous dirais que c'est un problème parce que en contexte de confinement, les gens se sont retrouvés beaucoup chez eux, à prendre de l'information sur Internet, à nourrir une espèce de colère à l'encontre du gouvernement et des mesures sanitaires. Et puis parfois, il faut bien qu'on se le dise, on a le droit d'être pas d'accord avec les mesures sanitaires, c'est correct de l'exprimer, sauf que là, on a des gens qui sont arrivés, qui leur ont apporté des réponses toutes faites à des questions complexes, et les gens ont embarqué là-dedans, et aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec des gens qui sont assez radicalisés. Écoutez, pour QAnon, c'est le FBI et le Service canadien du renseignement de sécurité, donc c'est pas mon analyse à moi seulement, qui disent que c'est clairement des menaces potentielles en termes d'extrémisme violent, parce que finalement, ils galvanisent des gens qui pourraient passer à l'acte. Donc, si vous voulez, les gens qui déposent ces idéologies-là dans nos sociétés doivent être conscients qu'il y a des gens qui, plus fragiles psychologiquement, vont à un moment donné se servir de ces discours-là et de ces causes pour justifier des actes violents. Donc là, il y a vraiment une responsabilité, à mon avis, individuelle et collective par rapport à la situation en ce moment. Et c'est sûr que c'est assez problématique. Je pense que la mauvaise réaction aussi, si vous voulez, c'est de mettre tout le monde dans le même panier.
Évidemment.
et de rejeter ces gens-là comme s'ils étaient juste fous.
Je suis content de vous entendre dire ça, M. Morin. Moi, s'il y a un aspect qui me dérange depuis le début de la crise, là, c'est de tout le monde qui se traite de crétin à qui mieux, puis au plus fort la poche, comme jouer au roi de la montagne dans la cour d'école, alors que bien souvent, j'imagine que ces gens-là ont des enfants comme nous qui vont à l'école, ils doivent attacher leurs patins pour qu'ils jouent au hockey de temps en temps. J'imagine que c'est pas juste du monde seul qui pense comme ça. J'ose croire qu'il y a des gens qui ont des familles là-dedans. Mais poursuivez, je suis content que vous ouvriez cette porte-là.
Oui, je vous le confirme. Moi, je discute avec quelques-uns. J'en ai dans mon environnement qui sont des gens avec qui on peut parler. Et je pense que la plus mauvaise des réactions, finalement, c'est de fermer la porte, de les rejeter. Puis nous-mêmes, par rapport à ces discours-là, nous-mêmes de nous radicaliser en disant que ce sont juste des crétins. Parce que quand on fait ça, finalement, on les laisse à la merci des gens qui les manipulent. Et donc, au contraire, je pense qu'en ce moment-là, dans le contexte dans lequel on en est rendu, c'est beaucoup plus important d'ouvrir la porte au dialogue. Alors, c'est pas toujours facile. Il y a aussi des ressources externes quand on a l'impression qu'on a perdu la possibilité de dialoguer. Là, il y a InfoSect, oui. Il y a les SUS, avec les équipes polarisation sociale,
parce
le centre
que c'est
à Montréal,
le cas.
Il faut le dire.
Parce que c'est le cas, M. Morin, parce qu'il y en a qui nous écrivent, comme nous, évidemment, à la radio, juste, par exemple, de faire une entrevue comme nous faisons là. On peut se faire traiter de tous les noms. Fait que là, en partant, le dialogue part pas. La personne qui communique avec nous veut pas établir un dialogue. Il veut juste nous invectiver. Est-ce que c'est le résultat du fait qu'il se sent perçu comme quelqu'un de stupide ou qui manque de jugement par le reste de la société? Je n'ai pas la réponse à ça, en partie potentiellement. Mais il y en a qu'on sent qu'il y a une discussion qui est possible.
Oui, absolument. Alors, si vous voulez, quand on prend par exemple QAnon, là où ils ont été assez bons, c'est que finalement, ils créent une communauté en ligne. Et donc, vous vous retrouvez dans un milieu social, une espèce de bulle. Et finalement, vous n'avez plus que de l'information qui vient confirmer tout ce que vous pensez. Donc là, il n'y a plus d'ouverture possible. On est dans un phénomène qui est quasiment sectaire. Et donc, si vous voulez, le défi, c'est effectivement d'arriver à détourner un peu l'attention et puis de reconnecter avec ces gens-là. Mais comme je vous dis, si c'est quelqu'un, un membre de votre famille, puis que vous n'avez vraiment plus de possibilité de lui parler, il y a des ressources externes qui peuvent essayer aussi au moins de vous aider à gérer cette situation-là, parce que c'est dur pour les proches aussi, et puis peut-être parfois d'essayer d'entrer en contact. Après, dans beaucoup de cas, effectivement, il y a des gens qui sont finalement, je vous dirais, dans des zones grises. Il faut les ramener souvent un peu, finalement, à nos préoccupations communes, leur rappeler que nous aussi, vous ou moi, on peut avoir, par exemple, des critiques à l'endroit du gouvernement, des questionnements, etc. Et souvent, on arrive ici à rétablir une forme de conversation en disant simplement, nous, ce qu'on n'achète pas, là, c'est l'espèce de grande théorie du complot qui expliquerait tout ça. Mais donc, il y a des failles chez tout le monde, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut essayer de s'engouffrer un peu pour essayer de rétablir ce contact-là avec les gens qui sont un peu partis du côté obscur.
J'aime beaucoup M. Morin, et c'est une discussion, en fait, je vois ça comme l'amorce d'une discussion, en tout cas avec vous, en ce qui me concerne, et au plaisir de la poursuivre au fur et à mesure qu'on va constater les événements qui se déroulent dans l'actualité. Mais merci beaucoup d'avoir été là ce soir, et vraiment plaisir de la poursuivre, si ça vous convient, bien sûr, lorsque on aura l'occasion de le faire.
Absolument, ça m'a fait plaisir, et puis à la prochaine, bonne soirée.
Merci, à la prochaine.